Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin l'infectiologue suisse Didier Pittet.
Bonjour professeur Pittet.
Et bonjour Alba.
Et merci d'être avec nous en direct de Genève. Je rappelle que vous êtes le co-inventeur du gel hydroalcoolique, ô combien précieux. Et puis vous êtes aussi l'auteur avec l'écrivain Thierry Crouzet d'un livre tenu comme un carnet de bord des 6 premiers mois de la pandémie, Vaincre les épidémies, de la prise de conscience aux gestes qui sauvent, aux éditions Hugo Doc. Professeur, êtes-vous en mesure de nous décrire la situation dans laquelle nous sommes ici en France? Est-ce que nous sommes en sursis ou est-ce que vous diriez comme le professeur d'un infectiologie Christian Rabaud, c'est un peu comme lors d'un tsunami quand la vague se retire avant de nous retomber dessus?
Écoutez, je crois que la notion de sursis est meilleure, puisqu'en fait, on voit que le nombre de cas est relativement stable, voire même, on pourrait même imaginer une très légère baisse. Le sursis est plutôt et davantage lié à la présence de ces variants. Et c'est là la question qui fait que une certaine prudence, une extrême prudence semble être de mise, ou je dirais une vigilance armée. Je parlerai d'une vigilance armée. C'est au fond la tactique qui est utilisée aujourd'hui en France.
Mais on a une marge de combien de jours, de combien de quoi, une semaine, deux semaines avant que cela s'emballe? Ou est-ce qu'on peut pas parler comme ça?
Et on ne peut pas vraiment parler comme ça du tout, parce qu'en fait, lorsqu'on regarde, n'est-ce pas, le premier des variants qui fait souci, c'est ce variant britannique. Mm-hmm. Et on a maintenant au minimum un mois et demi de recul sur ce variant britannique. En France, au début de l'année, vous étiez de l'ordre de 3%. Ça veut dire que, au fond, parmi toutes les souches de Covid-19, 3% étaient liés au variant britannique. Ensuite, nous sommes passés à 14% et aujourd'hui, de l'ordre, disons, de 25% à 30%. Ça veut dire une montée, certes exponentielle, comme on peut l'imaginer, mais une montée relativement maîtrisée. Ce qui veut dire que tant que le nombre de cas globaux de Covid-19 en France peut être suivi par ce qu'on appelle évidemment le traçage, le suivi des contacts, les quarantaines respectées, les tests pratiqués à large échelle, on peut contrôler les chaînes de transmission. Tant qu'on peut contrôler les chaînes de transmission, on peut imaginer de rester dans cette situation-là.
D'accord. Mais on est évidemment perplexe face à la circulation de tous ces variants. Ce sont des circulations assez locales, sporadiques. On a entendu parler de deux cas, par exemple, du variant, alors cette fois sud-africain, à Bagnères-de-Luchon, en Haute-Garonne, des cas plus importants du même variant en Moselle. À Dunkerque, c'est le variant anglais qui est 6 fois plus présent que partout ailleurs en France. Comment vous expliquez cette circulation locale?
Écoutez, c'est totalement attendu, parce qu'en fait, l'épidémie, la pandémie, si vous voulez, elle est constituée d'une série d'épidémies qui sont toutes constituées par un, deux ou trois variants différents, peut-être davantage, et au fond, l'épidémie se propage par ce qu'on appelle des clusters. À partir du moment où vous pouvez contrôler les clusters, y compris de variants qui peuvent être parfois hyper endémiques, voire même hyper épidémiques, à ce moment-là, vous contrôlez la situation. Donc c'est tout à fait attendu d'avoir des variants qui prennent la place d'autres. Certains, évidemment, nous inquiètent un peu davantage parce qu'ils sont davantage transmissibles. Certains, ouais, peut-être un peu moins sensibles aux réactions de l'immunité d'aujourd'hui. Et c'est pour cette raison qu'il convient de contrôler la situation au plus proche. Nous avons des outils pour le faire. Et c'est une question de peser d'intérêt au jour le jour.
Mais donc vous ne savez pas vraiment s'ils sont plus transmissibles, à quelle vitesse ils vont, ça on le mesure pas encore.
Alors pour le variant britannique, on a des données mais qui sont essentiellement basées sur les données en Angleterre, qui était dans une phase où la situation n'était pas bonne en Angleterre, avec des mesures qui n'étaient pas respectées, des mesures qui étaient allégées, c'était la grande période des fêtes, et donc du coup il y a eu de la transmission extrêmement rapide. Et oui, le variant britannique semble et est probablement entre 40 et 70% plus transmissible. Ceci dit, les mesures de base base, les mesures barrières, que ce soit l'hygiène des mains, la distance sociale, oui, le port du masque, sont parfaitement efficaces contre ce variant. Donc on comprend très bien que lorsqu'elles sont bien appliquées, on limite la transmission du variant. Donc on comprend très bien qu'il puisse de temps en temps faire des clusters non maîtrisés et la plupart du temps des clusters maîtrisés.
Mais est-ce qu'ils vont inévitablement se diffuser plus largement ? Est-ce que ça, on n'y peut rien ? On ne peut pas les freiner vraiment ? Sauf à appliquer, comme vous dites, les gestes barrières. Mais est-ce qu'ils vont être plus forts à un moment ?
Écoutez, non. À partir du moment où les variants se remplacent les uns des autres, ils ne vont pas être plus forts. Certains vont avoir une capacité de transmission plus élevée. Donc, par définition, bien entendu, ça fera un nombre de cas plus élevé, avec un nombre de cas sévères plus élevé. Donc, davantage d'hospitalisation, puis davantage d'hospitalisation en réanimation. C'est évident. Donc, ça veut dire que le contrôle de la situation, quel que soit le type de variant, sera le même. Bien entendu, plus on peut conduire d'enquêtes épidémiologiques sur le terrain qui contrôle les chaînes de transmission, plus vite on sera sur les cas contacts, plus on maîtrisera la situation. Je peux vous dire qu'en Suisse, par exemple, ce sont 60% des souches qui sont le variant britannique aujourd'hui. À Genève même, 70%. Et pourtant, nous n'avons pas d'augmentation du nombre global de cas. Ça veut dire que la maîtrise sur le terrain est là pour contrôler l'évolution de ces variants malgré leur capacité élevée de transmissibilité.
J'ai une question, professeur, liée à la météo. Parce qu'alors, on nous a dit que les virus aimaient le froid. Et hier, je lisais que lorsqu'il fait très froid, en revanche, ça les affaiblit. Que faut-il comprendre ?
Écoutez, bon, c'est un des éléments du phénomène. Les virus aiment le froid, certes, mais comme on l'a vu, ils se sont largement propagés dans l'hémisphère sud, comme par exemple en Afrique du Sud, alors qu'il y faisait chaud à ce moment-là. Donc voilà, c'est un des paramètres. Le très froid fait que les gens se retrouvent davantage à l'intérieur, souvent les uns avec les autres, et c'est là le paramètre essentiel. Le paramètre essentiel n'est pas lié à la biologie du virus. Le paramètre essentiel est lié au comportement humain, avant tout.
Je reviens aux restrictions, professeur Didier Pittet. Vous prenez plutôt des confinements locaux, là où les virus flambent ?
Certainement, bien entendu. Bien entendu, parce que, n'est-ce pas, aujourd'hui, on sait, on a des soucis en Moselle, par exemple, et il va falloir certainement adapter les mesures, comprendre ce qui se passe, en fonction de ce qui s'est passé, avoir des mesures locales, si possible, et puis si on n'a pas l'impression de comprendre ce qui se passe vraiment, eh bien, il faudra peut-être faire des mesures de confinement qui peuvent être de quartier, qui peuvent être de petites régions, qui peuvent être de villes, mais on ne va pas faire ce confinement-là à Perpignan ou à Toulouse, on est bien d'accord pour la question de Moselle. Donc effectivement, il est possible qu'on doive avoir recours à des confinements localisés en fonction de notre compréhension de l'épidémiologie de terrain.
D'accord. Professeur Didier Pittet, pour la première fois en France, un patient de 58 ans a été réinfecté, un patient sans maladie chronique. Il avait été atteint du Covid en septembre sous une forme plutôt bénigne, testé ensuite deux fois négatif, et il vient en janvier de retomber malade sous une forme plus grave, touché par la forme sud-africaine, nous dit-on, du virus, intubé sous respirateur au sein du service de médecine intensive de l'hôpital Louis-Maurier de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. On pensait que lorsqu'on avait été malade, on était bien plus protégé. Donc, cet exemple montre que c'est faux ou bien est-ce que c'est une exception ?
Alors, pour l'instant, on est plutôt dans l'ordre de l'exception, c'est très clair, puisque vous voyez, le nombre de personnes infectées dans le monde est gigantesque. Et on a connaissance d'une petite cinquantaine de personnes dans le monde qui ont été réinfectées. Encore faut-il qu'on prouve la réinfection, mais peu importe, dans ce cas, c'est le cas. Et donc, ça demeure tout de même quelque chose d'extrêmement rare. C'est possible, bien entendu. Il se trouve qu'en l'occurrence, c'est le variant sud-africain et certainement qu'il faut disposer de taux d'anticorps très élevés, d'une très bonne réaction immunitaire pour finalement réagir au variant sud-africain. Donc, ça n'est pas un hasard biologique, si vous voulez, mais c'est tout de même un événement extrêmement rare.
Et est-ce que vous avez appris des choses sur notre système immunitaire, sur notamment des anomalies éventuellement de notre système immunitaire avec cette expérience-là ?
Écoutez, non, parce que c'est connu, hein, n'est-ce pas, les réinfections, c'est quelque chose qu'on connaît dans le domaine des maladies infectieuses. Au contraire, on le sait pour les coronavirus, pour les quatre familles de coronavirus avec lesquelles on vit depuis des centaines d'années, qui nous font les petits rhumes à l'automne. On sait très bien que quand on voit nos petits-enfants, en tout cas c'est mon cas, très facilement, on refait des petits rhumes, des choses comme cela. Donc ça veut dire qu'on n'a pas une immunité à vie totale, mais tout de même, on ne fait aucune infection grave à ces agents-là. Donc je suspecte que dans quelques années, lorsque l'immunité de population sera globalisée, nous vivrons la même situation.
Ils vous font peur, ces variants, professeur ? Je sais que vous en avez vu d'autres, mais...
Écoutez, peur, non. Simplement, ce qui est important, c'est d'être extrêmement vigilant et que chacun, chacune comprenne les consignes et le pourquoi des consignes et les applique. Et dans ce cas-là, eh bien oui, nous avons un tunnel à traverser. On commence à en voir le bout. On aura des épisodes de haut et d'un peu plus bas. Mais globalement, nous allons aller vers une sortie, en particulier évidemment compte tenu que la vaccination deviendra de plus en plus disponible, à de plus en plus large échelle, avec un nombre élevé de différents vaccins disponibles.
Dans votre livre « Vaincre les épidémies », vous décrivez votre combat contre le coronavirus comme un match de tennis. Vous racontez les 6 premiers mois de 2020 en disant que c'est le premier set. Là, on en est toujours au deuxième set, ou est-ce que le troisième set va démarrer ?
On est au deuxième set et on démarre le troisième set.
Donc d'accord, ça va redémarrer.
Et un match 7-1 en 5-7.
En 5-7, c'est noté, professeur. On ne va pas se quitter sans que je vous félicite pour la médaille Pasteur que vous venez de recevoir. Bravo, professeur,
merci.
Et merci pour tout ce que vous faites. Je note que cette médaille est attribuée quand même tous les 10 ans. Et merci à la RTS, la radio-télévision suisse, pour vous avoir accueilli dans ces studios. À bientôt, professeur. Merci.
Au plaisir, à bientôt, merci.